Chapitre 6. Agatha dut empêcher le vigile d'essayer de ranimer Amy Richards.
Laissez-la ! Hurla-t-elle en le tirant en arrière. Pas besoin d'être Einstein pour voir qu'elle est raide morte ! Vous êtes en train de toucher à des indices !
Nauséeuse et un peu secouée, Agatha, qui avait appelé la police, entendit le hurlement des sirènes. Puis des voitures de police, banalisées ou non, affluèrent sur le parking. Une policière à la mine sinistre, qu'elle ne connaissait pas, lui posa des questions avant de l'informer qu'on allait la conduire au commissariat pour qu'elle y fasse une déposition. Agatha téléphona à son avocat, un homme doux répondant au nom de Bill Sykes, pour lui demander de la rejoindre. Elle avait déjà eu recours à ses services pour rédiger son testament. Il protesta qu'il ne s'occupait pas de droit pénal, à quoi elle rétorqua brusquement « Alors rappliquez et apprenez !» Pendant son laborieux interrogatoire, son avocat, timoré et somnolent, lui fut d'un maigre secours. Elle avait pris la précaution de le faire venir, car elle savait bien que ce serait pour la police une coïncidence de trop, qu'elle ait soudainement décidé d'aller jeter des déchets au milieu de la nuit, après avoir épié la maison d'Amy, et qu'elle soit, comme par hasard, tombée sur son cadavre. Elle répéta son histoire, encore et encore, tandis qu'au mur, au-dessus de sa tête, la pendule asthmatique égrenait les minutes avec un tic-tac rauque. Au bout d'un moment, elle leva la main.
« Ça vous ennuie de me dire comment elle est morte ?»
Wilkes, qui dirigeait l'interrogatoire, lui lança un regard mauvais. Un inspecteur trapu, nommé Briggs, lui demanda méchamment.
« Vous ne le savez pas ?»«
Si je le savais, je ne poserais pas la question »
tempêta-t-elle.
« D'après ce que nous avons compris, elle a été poignardée en plein cœur, »
répondit Wilkes.
« Avec ?»«
À votre avis ?»
fit Briggs sarcastique. Mr. Sykes, l'avocat, était fatigué. Il trouva au fond de lui une réserve de courage et de hargne qu'il ignorait posséder.
« Répondez à la question de Mrs. Raisin, » dit-il d'un ton brusque, « et arrêtez de nous faire perdre du temps avec vos manœuvres d'intimidation !»
À voir sa tête, on aurait dit que Briggs venait de se faire mordre à la cheville par un lapin. Wilkes répondit d'une voix accablée.
« Un couteau à lame fine, à notre avis.
« Avez-vous quoi que ce soit à retenir contre ma cliente ?»
demanda le petit Mr. Sykes, incendiant du regard les deux policiers à travers ses épaisses lunettes.
« Pas pour le moment, » reconnut Briggs abattu.
« Alors vous êtes libre de partir, Mrs. Raisin, »
déclara l'avocat en enroulant une longue écharpe autour de son cou.
« Venez, tenez-vous à notre disposition pour répondre à d'autres questions !»
cria Wilkes, alors qu'Agatha et Sykes lui avaient déjà tourné le dos. Devant la salle d'interrogatoire, Agatha fit sursauter Mr. Sykes en le serrant dans ses bras.
« Bravo, j'étais si épuisée, je ne savais pas comment leur tenir tête. Et croyez-moi, ça m'arrive rarement. »«
Où est votre voiture ?»
s'enquit Mr. Sykes.
« Au supermarché.
Je vous raccompagne. »
Et l'avocat enchaîna décidément, ragaillardi par le souvenir de sa bravoure.
« Vous pouvez fumer si vous le souhaitez. »
Sur le parking du supermarché, une tente avait été dressée au-dessus du corps. Mais Agatha ne voulait qu'une chose, rentrer chez elle et dormir. Après avoir remercié une fois de plus son avocat, elle monta dans sa voiture et s'éloigna dans le paysage tout blanc. Il ne neigeait plus et la route descendant à Carsley était redevenue glissante. Elle rétrograda en deuxième vitesse et s'engagea enfin dans l'Hylock Lane avec un soupir de soulagement. En descendant de voiture, elle s'aperçut qu'elle flageolait sur ses jambes. Elle verrouilla les portières. C'est alors qu'elle entendit une voix crier.
« Agatha !»
Elle fit volte-face. La nuit avait disparu derrière un amoncellement de nuages, mais elle vit une silhouette, grande et sombre, approcher d'elle. Elle allait pousser un hurlement lorsqu'une voix jadis aimée lui demanda.
« Est-ce que ça va ? J'ai entendu parler du meurtre à la radio. »«
James ? »
fit-elle d'une voix étonnée.
« C'est vraiment toi ?
Qui veux-tu que ce soit ?» répliqua son ex-mari James Lacey.
« Oh, je suis si heureuse de te voir !» s'exclama-t-elle. Puis elle fondit en larmes.
Une fois chez Agatha, James attendit patiemment dans la cuisine, tandis qu'elle filait à l'étage retoucher son maquillage. Avec son épaisse chevelure qui grisonnait sur les tempes et son regard bleu vif, il n'avait pas changé, se dit-elle. Convaincue qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour son visage, elle se vaporisa du coco mademoiselle et redescendit.
« Quand es-tu rentrée ? » demanda-t-elle.
« Aujourd'hui.
Tard. J'ai appris par la radio qu'on avait découvert un corps sur le parking du Tesco. » J'ai préféré t'attendre à Carsley plutôt que risquer de te manquer sur la route.
Je t'ai servi un cognac. J'imagine qu'un thé chaud et sucré aurait été plus indiqué, mais tu m'as l'air d'avoir besoin d'un remontant.
Elle acquiesça d'un signe de tête et il alla chercher un verre de cognac dans le salon.
Après en avoir bu une bonne lampée, elle lui sourit, les yeux embués de larmes.
C'est si bon de te revoir. On dirait bien que je suis le suspect numéro un dans le meurtre d'Amy Richards.
Si tu n'es pas trop fatiguée, raconte-moi.
Oui, volontiers. Je suis épuisée, mais trop tendue et nerveuse pour fermer l'œil. Mince, j'aurais dû appeler Tony. Ils l'ont sans doute interrogé aussi. Tony, c'est un autre problème. Je vais tout te raconter.
James sortit un petit calepin et prit quelques notes pendant qu'Agatha lui racontait l'affaire sans reprendre son souffle. Quand elle eut terminé, il lui rappela.
« Tu as dit que tu avais des ennuis avec Tony.
Lesquels ?»
Accablée, Agatha résuma la situation et conclut sur un ton plaintif.
« Ne prends pas cet air sévère. J'ai tout gâché, je ne sais pas quoi faire. »«
Simon est très jeune, » fit remarquer James. « Et il n'aimait certainement pas Tony d'un amour éternel. » Sans quoi il ne se serait pas si facilement entiché de cette nouvelle fille. Le problème, c'est que tu ne peux absolument rien faire. À partir de maintenant, il faudra que Tony fasse ses propres erreurs. Elle va peut-être se raviser. Elle est farouchement indépendante, tu le sais bien.
Mais elle est si jeune!
Comme tu l'as été, Agatha. Et je parie qu'à côté d'elle, tu étais un vrai bulldozer. Je pourrais essayer de lui parler.
Tu ferais ça? Elle t'a toujours respecté.
Maintenant, au lit. On se revoit demain pour déjeuner au Georges, disons. Fais la grasse matinée, j'appellerai l'agence de ta part.
Où étais-tu?
J'écris toujours des récits de voyage, mais je suis passée au beau livre sur papier glacé et j'explore les coins les plus reculés de la planète.
Il en reste? Je croyais que même l'Everest était surpeuplé.
Oh, il en reste quelques-uns. Ferme la porte à clé derrière moi et va te coucher.
Après le départ de James, tandis qu'elle sombrait peu à peu dans le sommeil, Agatha s'aperçut avec bonheur que sa vieille obsession pour lui ne la tarabustait plus.
« Mais je suis si lasse d'être seule !» songea-t-elle.
« Charles est comme mes chats. Il n'a besoin de personne. Et Roy me laisserait tomber sans hésiter si on lui confiait un beau contrat de com. »
Agatha n'eut droit qu'à quelques heures de sommeil. À 9h du matin, sa femme de ménage, Doris Simpson, la réveilla pour lui dire que Bill Wong et une inspectrice l'attendaient en bas. Agatha s'inspecta d'un œil morne dans le miroir de la salle de bain. Elle se tartina la figure d'une crème censée faire disparaître les cernes et les poches sous ses yeux. Peine perdue. Elle appliqua une épaisse couche de maquillage. Quelle horreur! Pourquoi les fonds de teint étaient-ils soit d'un blanc maladif, soit marron? Elle enleva le tout avec de l'eau et étala à la place une fine couche de crème hydratante teintée. Elle entendait l'eau goûter du toit de son cottage. La neige s'était mise à fondre. Vêtue d'une tunique rose en coton et d'un pantalon en cachemire, elle descendit l'escalier pour se rappeler une fois en bas qu'elle avait horreur du rose. Dans la cuisine, Doris avait servi du café et des biscuits à Bill et à Alice.
« Asseyez-vous, Agatha, » redonna Bill.
« Bien sûr que je vais m'asseoir, » rétorqua-t-elle avec humeur. « Je suis chez moi, merde. J'irai même m'asseoir sur la cheminée si j'ai envie. »
« Je sais que vous êtes fatiguée, » intervint Alice d'un ton apaisant. « Mais nous aimerions reprendre quelques points avec vous. »«
Attendez que j'ai bu un café noir et fumé une cigarette, » maugréa Agatha.
« Au fait, » dit Bill, « Tony a retiré sa plainte contre Paul Finlay. »
Tony était déjà réveillé et achevait soigneusement de s'habiller pour son entretien chez Mixden, une agence de détectives concurrente. Vêtue d'un joli tailleur pantalon ajusté sous une doudoune écarlate, elle se mit en route. L'agence se situait en périphérie de Merchester. Elle roula dans les rues couvertes de neige fondue en essayant de refouler le curieux sentiment de déloyauté à l'égard de sa patronne, qui grandissait en elle. Agatha s'était conduite de façon inadmissible, se répéta-t-elle en se garant devant un bâtiment carré enduit de crépi granité. Le nom Mixden était écrit au-dessus de l'entrée. Elle reconnut la réceptionniste comme une ancienne camarade de classe. Chelsea Flitter, même si la jeune femme, teinte en blond, était tellement maquillée qu'elle ressemblait à un personnage du théâtre no japonais.
« Salut, Tone !» fit-elle. « Tu vas nous rejoindre ?»«
Peut-être.
Vas-y, entre. Mr. Mixden, c'est juste la porte à droite. Viens discuter un peu en sortant. Il faut qu'on se fasse un truc ensemble. »
Tony acquiesça d'un signe de tête, puis franchit la porte du bureau de Mr. Mixden. C'était un tout petit homme aux cheveux rares, ramené sur sa calvitie, où il gisait en traînée graisseuse comme des algues rejetées sur un rocher à marée basse. Il avait un grand nez, une large bouche aux commissures tombantes, et il portait des lunettes à monture dorée. Il sourit à Tony, révélant un dentier d'un blanc éblouissant, puis lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil face à son bureau.
« Vous êtes aussi jolie que sur les photos, » remarqua-t-il. « Pour une si jeune femme, vous êtes déjà très médiatique. Pourquoi est-ce que vous voulez nous rejoindre ?»«
J'ai l'impression d'avoir perdu mon enthousiasme en travaillant pour une seule agence. Agatha Raisin a été très gentille avec moi, mais elle croit qu'elle a un droit de contrôle sur ma vie privée autant que sur mon travail. »«
Je vois. » Mr. Mixden nota quelques mots sur son carnet, puis la regarda de nouveau. « L'agence Raisin marche très bien. Vous pourriez nous être très utile et gagner beaucoup d'argent par-dessus le marché. Mais d'abord, qu'est-ce qui me dit que vous ne venez pas chez nous pour nous espionner, informer Raisin des affaires sur lesquelles nous enquêtons, puis essayer de nous les enlever ?»«
Ça ne me viendrait même pas à l'idée, » répondit posément Tony, pour masquer une colère grandissante.
« Nous pourrions regarder les choses sous un autre angle, » dit Mr. Mixden en tapotant son stylo sur son carnet. Vous pourriez continuer à travailler pour la Raisin et nous tenir au courant de ces enquêtes. Comme ça, vous gagneriez deux fois plus. Qu'est-ce que vous en dites ?
Pour toute réponse, Tony se leva et sortit de la pièce en claquant la porte. Elle remonta en voiture et resta assise un moment sans rien faire. Elle se sentait petite et sale. Le vent rugissait dehors. Elle avait du mal à croire que Mixden ait pu lui proposer une chose pareille. Allez, courage. Il y avait une autre agence de détectives, Find It, en centre-ville. Avec son CV, il serait certainement content de la recruter. Elle gara sa petite voiture sur la grande place en essayant d'ignorer le sentiment inquiétant qu'elle était observée. Ce matin-là, James Lacey s'était rendu à Mercer pour acheter de nouvelles chaussures d'hiver. Dans la ruelle, devant lui, il reconnut la tête blonde de Tony. Puis il remarqua que chaque fois qu'elle se retournait, comme si elle craignait d'être suivie, un homme, barbu, s'engouffrait dans le renfoncement d'une porte. James les suivit et téléphona à Agatha sur son portable sans quitter Tony du regard. Agatha venait d'arriver à son bureau. « Ce doit être ce salaud de Paul Finlay, » dit-elle. « J'arrive tout de suite. »« Non, reste où tu es. Il va te reconnaître. » James se souvenait qu'Agatha lui avait parlé de Paul Finlay la veille. Mais le bonhomme n'oserait tout de même pas agresser Tony en plein jour dans une rue passante. Quand la jeune femme pénétra dans le bâtiment de l'agence de détective Find It, le barbu entra dans le café d'en face et s'assit près de la baie vitrée. James l'imita. Dans les locaux de l'agence, il n'y avait pas de réception, seulement une salle d'attente meublée de fauteuils confortables et d'une table basse. Tony se demandait comment annoncer sa présence quand une porte s'ouvrit sur le côté et qu'une grande femme demanda.
« Que puis-je pour vous ?»
La femme, Omas, portait ses épais cheveux gris en chignon banane. Elle avait de très grands yeux noirs et un nez recourbé par-dessus des lèvres minces. Son pull violet la moulait tellement qu'il laissait deviner sa poitrine pendante. Elle rappela à Tony une sorcière qu'elle avait vue dans un album pour enfants.
« Je cherche du travail, » répondit Tony.
« Ah oui, Miss Gilmore, je vous reconnais, vous vous êtes brouillée avec notre chère Agatha. »
« J'aimerais voir la personne qui dirige cette agence, » dit Tony d'une voix ferme.
« Mais c'est moi, mon chou. Pas fameuse comme détective, hein ? Je m'appelle Dolores Watchman. Venez dans mon bureau. »
Dit l'araignée à la pauvre petite mouche, songea Tony. Il y avait chez Dolores quelque chose d'écrasant, voire de carrément menaçant. La pièce était décorée avec goût. Dolores était assise derrière un bureau ancien en acajou, devant lequel Tony prit place sur une chaise droite. Plusieurs bonnes toiles abstraites étaient accrochées au mur, ainsi qu'une reproduction encadrée d'un dessin d'Aubrey Beardsley. La directrice de Find It alluma un cigare avant de se caler dans son fauteuil.
« Alors, quand est-ce que vous avez rompu avec Aggie ?»«
Nous n'avons pas encore... Je voulais changer d'air. »«
Je veux bien vous prendre quelques mois à l'essai. Un verre ?»«
Non, merci. C'est un peu tôt pour moi. »«
Jamais pour moi. »
Dolores ouvrit un tiroir en bas de son bureau pour en sortir une bouteille de whisky et un verre.
« Je croyais qu'on ne voyait ça que dans les romans policiers !» s'esclaffa Tony.
« Que les choses soient claires, ma petite. On ne rit jamais, je dis bien jamais de moi. J'exige un respect absolu. Bon, je vais vous mettre sur des petites affaires et voir comment vous vous en sortez. Ne comptez pas que je vous paye à taux plein tant que je n'ai pas décidé que vous le méritez. »
« J'ai fait une erreur, » dit Tony en se levant brusquement. « Bonne journée. »
« Quoi ? Sale petite morveuse !»
s'écria Dolores, tandis que Tony fonçait hors du bureau, hors de l'agence et jusque dans la rue. James vit Tony surgir du bâtiment d'en face, juste au moment où l'homme, qui ne pouvait être que Paul Finlay, jetait sur la table de quoi régler son addition et sortait du café.
Paul emboîta le pas à Tony et James les suivit. Tony hésitait, debout, à côté de sa voiture, quand elle entendit une voix derrière elle.
C'est Paul, j'ai un couteau. Monte dans ta voiture, si tu cries, je te tue.
L'instant d'après, un cri aigu déchira l'air. James avait tordu le bras armé de Paul dans son dos avec une telle violence qu'il lui avait démis l'épaule. L'amant éconduit s'écroula par terre en hurlant et en se contorsionnant de douleur pendant que James appelait la police.
« Si tu recommences, » dit-il à Paul entre ses dents, « je te brise la nuque. »
Assis à l'accueil du commissariat, James attendit que Tony ressorte. Il avait dissuadé Agatha de venir en faisant valoir qu'il était préférable qu'il discute seul à seul avec la jeune femme. Elle sortit enfin, suivie de Bill.
« Je l'emmène juste boire un verre, » dit James. « Elle doit en avoir besoin. »«
Ok, » fit le policier. « Vous avez vraiment débarqué au bon moment, on dirait. Vous avez vu Agatha ?»«
Bien sûr. »
Lorsqu'ils se furent installés au pub, Tony remercia James d'être venu à son secours.
« Vous devriez appeler Agatha et prendre votre journée, » conseilla James. Puis il ajouta avec douceur. « Vous savez, elle est toute retournée par l'erreur qu'elle a commise au sujet de Simon Black. Elle n'a pas le droit de se mêler de votre vie privée, et elle le sait maintenant. Elle a eu une de ses fameuses intuitions à propos de Simon. Elle s'est sans doute trompée. Est-ce que vous ne pouvez pas retirer votre préavis et rester avec elle ?»«
Je n'ai pas le choix, » répondit Tony d'un air malheureux. Puis elle fit part à James de ses tentatives pour trouver du travail dans deux autres agences.
« La preuve par neuf !» s'exclama James. « Il y a pire qu'Agatha !»
Tony eut un tout petit rire.
« Ah, je vous reconnais bien là. Dites-lui que vous avez décidé de rester. »«
D'accord. Et si elle m'envoie balader ?»«
Elle a trop bon cœur pour ça. Et puis elle apprécie votre travail. »«
Alors je vais tout de suite à l'agence le lui annoncer, » dit Tony en vidant son verre.
« Avant de partir, vous pouvez peut-être m'aider. Je dois acheter un jouet pour la fille d'un ami. Une petite fille, elle a 7 ans. Qu'est-ce que vous me conseillez ?»«
Il y a une super boutique tenue par Made in Woody. Tous les jouets sont fabriqués à la main. Vous la trouverez dans Tapestry Lane. C'était une idée de Simon, mais c'est Agatha qui a monté un gros coup de pub pour son magasin. »
Les années de vache maigre étaient terminées pour Made in Woody, mais elle ne savait toujours pas s'habiller.
Elle portait ce jour-là un long cardigan par-dessus un t-shirt rose, une jupe en tweed et des bottes en caoutchouc ornées d'un motif de pâquerette rose. Elle travaillait surtout à la comptabilité, dans son bureau à l'arrière du magasin, mais lorsqu'elle vit entrer la belle silhouette de James, elle décida de le servir elle-même et lui expliqua ce qu'il cherchait.
« En général, on achète des poupées aux petites filles, » dit May avec son léger accent écossais. « Mais parfois, elles n'aiment pas jouer à la poupée. »
« Celle-là est plutôt du genre garçon manqué, » répondit James avec un rire.
« Voyons, voyons, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» demanda-t-elle en prenant un magnifique épagneul en bois noir et blanc. « On le tire par sa laisse, écoutez. »
Elle posa le jouet par terre et tira sur la laisse. Les yeux du chien s'illuminèrent et il ordonna d'une voix râpeuse.
« Emmène-moi !»«
Et regardez, » ajouta May avec enthousiasme, « il peut devenir plus insistant si vous ne le faites pas bouger. »
« J'ai dit « promène-moi maintenant !»
grogna le chien.
« Il y a un petit interrupteur sous son collier pour l'allumer et l'éteindre, » précisa May. James trouva le prix particulièrement salé, mais d'un autre côté, il était sûr que la petite fille de son ami serait ravie. Pendant que May emballait son achat, il demanda
« Je crois que vous connaissez mon amie Agatha Raisin ?»«
Oui, en effet. Je leur dois tout, à elle et à ce jeune homme, Simon Black. C'est lui qui a suggéré qu'elle fasse de la publicité pour mes jouets. » « Je me suis sentie un peu coupable parce que j'ai trouvé qu'elle demandait beaucoup. »«
Pour vous faire de la publicité, ça ne lui ressemble pas. »«
Oh non, elle n'a pas voulu me faire payer un penny. Mais en échange, elle a demandé à Simon de garder ses distances avec la jeune Tony pendant 3 ans. C'est à mon appartement Dudley Cruzis que je l'ai entendu parler avec lui. Elle a dit « Je ne veux pas que ma meilleure détective quitte l'agence pour se marier et avoir des enfants à son âge. » Vous imaginez mon soulagement quand j'ai reçu une invitation au mariage de Simon et appris qu'il épousait une fille de l'armée. On dirait bien qu'il était du genre volage, finalement.
James hocha la tête, mais il se sentait abattu. Agatha s'était conduite d'une manière indigne. Sa fameuse intuition n'était pour rien dans cette histoire. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était garder une bonne détective.
Lorsqu'il la retrouva pour déjeuner, le visage d'Agatha rayonnait.
Tony a décidé de rester, annonça-t-elle. « C'est formidable, non ? » ?»«
Je viens d'aller acheter un jouet pour la fille d'un ami à la boutique de Made in Moody, commença James. Agatha s'empressa de se cacher derrière la carte, mais il se pencha par-dessus la table et la lui retira. De ses petits yeux d'ours, elle lui lança un regard de bête traquée. Il apparaît donc, continua James d'un ton acide, que tu as fait payer à Simon un prix sacrément salé pour aider Dean Moody.
J'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire, cria Agatha avec la férocité propre au vrai coupable.
Tu as été cruelle et égoïste. Qu'est-ce que tu veux manger?
Qu'est-ce que tu veux que je mange? Mon chapeau? Écoute, je suis désolée. Tu veux que je parte?
Curieusement, non. On t'a dit comment je suis venue en aide à Tony?
Oui, elle m'a raconté. J'aurais aimé être à ta place, histoire de me racheter un peu, tu sais.
Heureusement que tu n'y étais pas. Bien, passons commande et décidons ce que nous allons faire à propos de tes assassinats.
Ils étaient assis sur une terrasse qui donnait sur le jardin à l'arrière de l'hôtel. Le printemps était enfin là, mars ayant fini par filer doux et le parfum des fleurs embaumait l'air. Dans le ciel, un disque de soleil blafard s'élevait à travers de petits nuages noirs et déchiquetés. C'était le cadre idéal pour un couple d'amoureux, songea tristement Agatha, pas pour une détective honteuse faisant face à son ex-mari.
« À ce que j'ai compris, dit-elle, le ou les assassins de Gary Beach ont mis sa maison sans dessus-dessous. Ils cherchaient désespérément quelque chose. Je pense qu'Amy est morte parce qu'elle en savait trop, ou alors qu'ils la soupçonnaient de détenir des informations. »
Est-ce qu'elle avait l'air d'avoir été torturée ? Demanda James.
Je n'ai regardé que son visage. Il ne portait pas de marque et il était paisible. Paisible comme la mort, si tu vois ce que je veux dire. Elle n'avait pas été étranglée. Je n'ai pas touché le corps, je ne l'ai pas retourné. La police a dit qu'elle avait été poignardée.
Est-ce que Gary Beach a laissé un testament ?
Oui.
Amy était la seule héritière.
Agatha appela Patrick sur son portable.
Rien de neuf, dit-elle en raccrochant. Il y a les diamants, bien sûr. C'est sans doute ce que ces bandits avaient en tête. Peut-être qu'Amy avait mis la maison en vente. La police a certainement fini de la passer au peigne fin.
Savourons notre repas. Ce soir, on se changera et on entrera chez Beach par effraction.
Comme au bon vieux temps,
jubila Agatha en souriant jusqu'aux oreilles.